Cette semaine aura été marquée par la figure du migrant. À la une du rapport annuel d'Amnesty International, au centre d'une assemblée plénière au Vatican, la question des réfugiés est brûlante. Dans le désert du Sinaï, le trafic et la torture des réfugiés est monnaie courante sur la route pour Israël. Sœur Azézet Kidane vit à Jérusalem, elle tire le signal d'alarme.
Au début, ça a commencé par le trafic d'êtres humains. Des passeurs promettaient beaucoup de choses à ceux qui voulaient se rendre en Israël. En échange, ils devaient payer entre 1500 et 3500 dollars. Mais surtout, ces derniers temps, il y a eu une augmentation de la torture en échange d'argent. Ça a commencé lorsque le nombre de candidats à l'immigration s'est réduit. Les passeurs ont dû trouver d'autres solutions. Alors, ils ont commencé à kidnapper des personnes en Éthiopie, en Érythrée. Ils les emmènent de force dans le Sinaï et les torturent.
Les réfugiés, question cruciale aussi en Syrie. La situation sur le terrain est toujours critique et le conflit déborde sur le Liban voisin. Le patriarche de l'église maronite, Mgr Béchar Haraï, s'inquiète de l'escalade de violence dans la région.
Malheureusement, toute cette guerre en Syrie est une ingérence extérieure des pays arabes et des pays occidentaux qui aident en argent, en armes et en soutien politique les uns et les autres des belligérants. Il faut respecter les souverainetés des pays. Il faut respecter ce que la population voudrait faire. Et nous espérons que l'Église, que le Saint-Siège, que le pape François mettent toute la valeur morale du Saint-Siège pour mouvoir les consciences presque mortes ou endormies.
Les Iraniens choisiront leur nouveau président le 14 juin prochain, parmi 8 candidats validés cette semaine par le guide suprême. Dans la liste ne figure ni le réformateur Rafsanjani, ni Mashaï, proche collaborateur du président actuel Ahmadinejad. L'éclairage de Bernard Ourcade, directeur de recherche au CNRS.
Effectivement, l'élection est en cercle un peu fermé, et les 8 candidats, même s'ils sont d'opinions très différentes, sont tous très fidèles au guide de la République islamique. Mais il n'empêche que dans ce cadre-là, les gens qui entourent le guide Ali Khamenei sont aussi conscients qu'il faut lâcher du lest, ils sont conscients des dynamiques populaires, ils sont conscients de la pression internationale. Et aujourd'hui, on sait très bien que, quel que soit le président élu, il devra trouver une solution pour le nucléaire, trouver une solution pour la levée des sanctions économiques de l'ONU, trouver une solution pour normaliser les relations avec les États-Unis.
Les États-Unis, dont l'Europe pourrait s'inspirer pour lutter contre l'évasion fiscale. La levée du secret bancaire était l'objectif du sommet européen de mercredi à Bruxelles. Les États-Unis ont déjà obtenu un échange automatique de données bancaires à l'échelle internationale. Pascal Saint-Amand, directeur du Centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE.
Dès qu'un citoyen américain ouvre un compte bancaire en dehors des États-Unis, le pays où il ouvre ce compte bancaire devra donner aux États-Unis, de façon annuelle et automatique, le solde du compte bancaire, combien il y a, les transactions intervenues sur ce compte bancaire, les intérêts perçus, les dividendes perçus, les gains en capitaux réalisés, les plus-values réalisées, et ceci sera donné aux États-Unis de façon régulière, hein, sur tous les citoyens américains. Les États-Unis ont obtenu cela d'ores et déjà, y compris de la Suisse, du Luxembourg, de Singapour et d'autres pays.
Au Guatemala, l'ancien dictateur Rios Montt avait été condamné il y a 2 semaines à 80 ans de prison pour génocide et crimes de guerre contre la minorité maya. Un jugement cassé lundi par la Cour suprême pour vice de procédure, une décision qui ravive l'opposition entre classe dirigeante et minorité indigène. Kevin Partenet, doctorant rattaché aux séries à Sciences Po.
Ça génère beaucoup de complications, c'est-à-dire que l'ensemble des témoins qui avaient été auditionnés après cette date vont devoir être rappelés à la barre. Donc là encore, on va repartir sur un cycle d'auditions, un cycle d'expertise qui peuvent générer tout un lot de vices de procédure et un cercle plutôt vicieux dans le sens où le procès désormais va s'acheminer sur de nouveaux développements et d'éventuels nouveaux rebondissements qui sont au final autant de mauvaises nouvelles pour les indigènes qui pensaient avoir enfin reçu une condamnation pour ce président qui avait perpétué autant de massacres à cette époque.
L'Union africaine fête en ce moment son 50e anniversaire. 54 chefs d'État sont réunis à Addis Abeba en Éthiopie sur le thème panafricanisme et renaissance africaine. Pascal Hérault, journaliste à la revue Jeune Afrique.
On ne peut pas la comparer à l'Union européenne. L'Union européenne, c'est une grosse machine, c'est 15 000 fonctionnaires, c'est des financements énormes. L'Union africaine reste une structure assez légère, 800 fonctionnaires et des financements assez limités. On sait très bien que toutes ces dernières années, avant la chute de Muammar Kadhafi, elle était financée par des partenaires extérieurs et par la Libye. quand Kadhafi est tombé, s'est posé un problème de financement. Son budget annuel n'est que de 300 millions de dollars et ça sert à payer essentiellement les infrastructures, des frais de fonctionnement, des projets routiers, c'est des millions de dollars. Les projets de développement social, les écoles, c'est aussi des millions de dollars. Donc l'UA devra aussi être capable dans les prochaines années de mobiliser des financements aussi bien au niveau des pays africains que des partenaires extérieurs.
Enfin, autre anniversaire cette semaine, celui de l'abolition de l'esclavage colonial le 23 mai 1848. Des commémorations ont eu lieu dans la ville de Saint-Denis, en France. Serge Romana est le président du comité Marche du 23 mai 1998, qui est à l'origine de ces célébrations.
Ce que l'on a fait, c'est que nous avons été dans les archives et nous avons retrouvé à peu près 110 à 120 000 personnes qui, en 1848, étaient toujours esclaves et qui ont été nommées à partir de 1848 et dont nous portons aujourd'hui les noms de famille. Ces personnes retrouvées, on les a mis à l'honneur dans un mémorial, dans des livres. Aujourd'hui, il y a un site internet où on tape simplement le nom de famille et on retrouve notre aïeul.